Fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue au Journal en français du studio Kalangou. Au micro, je suis Rafika Taher. Au sommaire, ce 1er décembre 2023, le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème cette année est « Laisser le leadership à la communauté ». Dans un instant, à suivre la situation de la maladie au Niger. La 28e conférence internationale pour le climat COP28 a débuté hier à Dubaï. Dès la première journée, le texte sur le fonds au titre des pertes et dommages a été adopté. Plus de précisions dans ce journal. Dans la partie magazine, un bijoutier explique le processus de conception des croix au Niger. Le monde entier célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida avec comme thème « Laisser le leadership à la communauté ». Au Niger, selon les enquêtes de surveillance de seconde génération 2019, bien que l'épidémie du VIH soit de basse prévalence 0,4%, dans la population générale de 15 à 49 ans, elle reste néanmoins élevée chez les professionnels de sexe 9,6%, les populations carcérales 1%. Hier, le médecin colonel major Garba Hakimi, ministre de la Santé, dans son allocution, a indiqué que la stigmatisation des personnes vivant avec la maladie et autres personnes affectées constitue une entrave à la lutte contre la maladie. Au-delà de nos frontières, la COP28 a démarré hier jeudi avec l'adoption d'un premier texte, celui qui permet la mise en œuvre du fonds pour pertes et dommages. L'adoption de ce texte intervient après un an de bras de fer entre les pays développés et ceux en voie de développement. L'objectif est d'assurer un soutien significatif aux personnes les plus vulnérables à travers le monde. Plus de détails avec Samira Rouafi.
L'année 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale selon une analyse de Climate Central publiée quelques jours avant le lancement de la COP28 hier jeudi à Dubaï. Ainsi, la nouvelle présidence de la COP entend se concentrer notamment sur l'accélération de la transition énergétique, la transformation du financement climatique et placer la nature, les personnes, les vies et les moyens de subsistance au cœur de l'action climatique. Dans son discours d'ouverture, le président de la COP28 a déclaré que la science a parlé et qu'il est temps d'avoir une grande ambition. Parmi les principaux résultats attendus de cette COP figure donc la sortie des énergies fossiles et la concrétisation des financements de 5 milliards de dollars par an pour réparer les dommages climatiques subis par les pays en développement comme ceux du Sahel. Déjà au cours de cette première journée, les Émirats arabes unis se sont engagés à verser 100 millions de dollars au titre des pertes et dommages. Mais certaines organisations estiment déjà que cette COP28 est une mascarade. Le directeur de la division environnement et droits humains à Human Rights Watch invite les Nations Unies à exhorter les Émirats Arabes Unis à cesser de bafouer les droits humains et abandonner leur projet d'exploitation accrue de combustibles fossiles. Richard Pershouse souligne que de nombreux militants pour le climat qui comptent assister à la COP28 ont de vives inquiétudes quant à leur propre sécurité dans un pays hôte qui a emprisonné des personnes en raison de leurs publications sur les réseaux sociaux et où les manifestations sont pratiquement illégales.
La COP28 a démarré hier jeudi avec l'adoption d'un premier texte et celui qui permet la mise en œuvre du fonds pour pertes et dommages. L'adoption de ce texte intervient après un an de bras de fer entre les pays développés et ceux en voie de développement. L'objectif est d'assurer un soutien significatif aux personnes les plus vulnérables à travers le monde. Plus de détails avec Samira Rouafi.
Au cours de la première journée de la COP28, les États ont donné leur accord pour financer les pertes et les dommages climatiques des pays vulnérables. Il s'agit d'un signal fort et une décision historique, soulignent de nombreuses organisations comme le réseau Action Climat. Parmi les populations concernées par ce fonds, celles de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, différents pays s'engagent déjà à verser des contributions. Les Émirats arabes unis annoncent 100 millions de dollars, le Royaume-Uni 75 millions de dollars et le Japon 10 millions de dollars. Selon le texte adopté hier jeudi, le fonds doit être accueilli provisoirement pour 4 ans au sein de la Banque mondiale. Le démarrage est prévu en 2024. La société civile africaine espère que l'accès ne sera pas compliqué. Elle invite également les plus grands pollueurs comme les États-Unis à rehausser leur ambition et à débloquer le financement crucial nécessaire pour garantir une COP28 transformatrice. À noter que ce fonds est différent des 5 milliards de dollars dus par les pays développés pour l'adoption et la transition écologique.
Auparavant, c'était Asumana China que vous avez écouté sur le début de la conférence internationale pour le climat COP28. La région de Diffa a lancé hier 30 novembre sa campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est le quartier d'Arinkowa de la commune urbaine de Diffa qui a abrité le lancement de cette campagne sous le thème « Tous unis, investir pour prévenir les violences à l'égard des femmes et filles ». La campagne est organisée par un consortium d'ONG œuvrant dans ce sens. Madame Sani Harika, directrice départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, a attiré l'attention de la population sur la problématique. Elle est au micro de Guidi Abdraman.
Le changement de comportement, ce n'est pas du tic au tac. Ça vient avec le temps. On ne peut pas exiger à ceux que vous assimilez tout ce qu'on vient de vous apprendre sur le champ. Nous avons confiance à l'avenir. Tout vient à point dans les jours à venir. Et le reste ne sera que des souvenirs. Comme le dit un adage, afin que cela serve d'exemple. Donc si vous commettez une infraction, on doit vous juger. Il ne faut plus laisser à cause de Dieu. Quel que soit le rang social de la personne, qu'elle soit d'une famille royale ou pas, elle doit répondre de ses actes. Cela doit servir de leçon pour les autres. Vu les différentes formes de violence que subissent les gens ici à Diffa, c'est vraiment déplorable. Imaginez le cas des petites filles vendeuses qui circulent en ville. La plupart d'entre elles sont enceintes et les bébés jetés dans les dépotoirs. Seuls les plus chanceux se retrouvent dans les centres d'accueil.
Ce sont 12 heures après l'abrogation de la loi 2015-036 par les nouvelles autorités qui criminalisent toute personne en lien avec le trafic des migrants de passage sur le sol nigérien. Des voix se sont exprimées à Agadez. Les plus concernés sont les ex-passeurs, conducteurs et ceux qui exercent le petit commerce. Ils expriment leur satisfaction après 8 ans de chômage au micro d'Anissé Karim.
Au moment où on nous a interdit cette activité, les gens ont souffert. Maintenant, Dieu merci, la loi est abrogée. Les commerçants trouvent leur compte. Avant, la mairie peut engranger plus de 10 millions de francs CFA uniquement sur les taxes. Les banques, les hôtels et les stations-service gagnent aussi. Tout celui qui exerce un commerce à Agadez trouve son compte. Cette loi a divisé les foyers, a poussé les gens dans le banditisme et la délinquance. Mais maintenant, Dieu merci.
Comme cette loi est abrogée, nous allons revenir dans notre activité de vente de bidons. On vendait 50 jusqu'à 60 bidons par jour. Donc avec le retour de cette activité, nous nous réjouissons.
Dans le temps, par jour, nous vendons pour 17 000, 25 000, voire même 30 000. Mais actuellement, c'est à peine qu'on arrive à vendre pour 7 000, 8 000 francs. Nous ne faisons que nous réjouir de la reprise de la migration.
Dans la perspective de la construction d'un nouveau lieu de stockage de l'uranate par la société Somaïra Arlit, une audience publique a été organisée autour de l'étude d'impact sur l'environnement le lundi 25 novembre. Selon le président de l'ONG Agriman, la Somaïra n'a pas communiqué pour que la population puisse assister à l'audience. Al-Mustafa Al-Hassan, au micro de Ousmane Oumarou.
C'est un jugement mais également une occasion pour que la population d'Arlit s'exprime sur leurs souhaits par rapport à ce projet. Mais malheureusement, selon nous, rien n'a été fait comme il le faut. Car sur aucune radio de la place, nous n'avons entendu un appel à participer. Donc les radios n'ont pas été sollicitées pour inviter la population à participer. De plus, c'était à la Somaïre de faire ce boulot. Et nous avons montré notre mécontentement par rapport à cela. Quand on est arrivé sur place, la salle était presque vide. Donc il fallait la présence de la population pour écouter le maire et lui dire les points sur lesquels ils sont d'accord ou pas et là où il faut des réajustements.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis hier à Bamako. Une rencontre qui fait suite à la réunion préalable des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger, chargés de définir l'architecture institutionnelle et opérationnelle de l'AES. Les ministres ont pour mission d'examiner, d'amender et d'adopter les documents élaborés par les experts, marquant la mise en œuvre stratégique de l'Alliance. Le projet d'architecture institutionnelle de l'AES comprend divers éléments, notamment les organes à créer et les projets de texte qui symboliseront l'engagement des trois États en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable. À Agadez suite à l'assassinat de deux enseignants attaqués sur leur chemin de retour de l'école par des hommes armés non identifiés. Le collectif des syndicats de l'éducation a décrété ce 1er décembre une journée de recueillement. Selon Hassan Oumarou, secrétaire général du SINASEB région d'Agadez, cette situation est inquiétante. Il est au micro de Moussa Maman.
Le premier est un enseignant en service à l'inspection de Thiro-Zérim sur son chemin de retour donc entre Agadez et Thiro. Il a été lâchement abattu par des bandits. C'était exactement le 17 octobre 2023. Et le deuxième, c'est un enseignant qui loge ici à Agadez et sert à l'école Sakuntalm, qui est un village ici à la périphérie d'Agadez. Donc lui aussi, c'était sur son chemin de retour de l'école qui a été vraiment victime de cet incident malheureux qui malheureusement lui a coûté sa vie. C'est une inquiétude parce que ça ne laisse personne indifférent. Tout laisse comprendre que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et personne n'est à l'abri. Nous, en tant que structure, on s'est chargé d'informer ceux qui sont garants de la sécurité de la ville pour vraiment prendre des mesures idoines. Et après l'Assemblée générale, il a été décidé beaucoup de choses, entre autres des collectes de fonds pour aider les deux familles en deuil et aussi bien d'autres actions qui vont suivre, Inch'Allah.
Symbole d'amour, de fertilité, d'histoire, de prévenance, les croix au Niger sont au nombre de 21 et représentent les oasis situées sur la route des tribus nomades. Aujourd'hui, chaque croix a son histoire et représente une ville. Elle permet de reconnaître facilement la provenance des personnes qui la portent. Écoutons Daouda Mahamman, bijoutier au village artisanal de Niamey, parler de l'historique de ce patrimoine matériel. Il est au micro de Amadou Harouna Djibo Ismail.
Pouvez-vous nous donner l'historique et le processus de conception de la croix?
Il existe 21 croix au Niger. Et pour fabriquer une croix, premièrement, il faut avoir de la cire d'abeille. C'est avec ça qu'on trace le chemin de la croix dans la cire. Après le découpage, on met ça dans de l'argile. Ensuite, on verse le liquide d'argent dans la cire ou même le métal à partir duquel on veut fabriquer une croix. Chaque croix est faite de cette façon, donc son origine passe par la cire. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Pour fabriquer une croix d'Agadez, pas besoin de cette méthode. Mais si on veut faire une croix d'Agadez, la méthode la plus ancienne est la meilleure. La croix d'Agadez, les autres sont faites de la même manière. Mais le problème, par exemple, si on veut faire la croix d'Agadez, si on veut faire la croix d'Iferon, c'est la même façon, avec la croix de l'Aïr, de Bagazam, de Zender, ainsi de suite. Même chose pour la fabrication de la croix d'Engal, de Tintabaraden, de Bilma, etc., etc. En un mot, c'est la même procédure à suivre pour fabriquer une croix.
Des gens disent que ce patrimoine matériel est en train de se faire plagier. Que pouvez-vous dire à cette question?
Prenons l'exemple du Mali. Au moment où ils veulent faire leur propre 21 croix, ils ont modifié celle du Niger pour fabriquer leur 21 croix. Mais pour un spécialiste, cela est facile de reconnaître que ce sont les croix nigériennes qu'ils ont juste modifiées. Ce n'est pas le fait de les modifier qui pose problème, mais que les gens reconnaissent qu'elles sont d'origine nigérienne.
Quel appel lancez-vous aux autorités pour conserver et protéger ce patrimoine matériel?
L'État protège ce patrimoine culturel, car il y a beaucoup de pays qui s'en approprient. C'est vraiment un problème. Si on prend le cas du Maroc, les Marocains disent que la croix d'Agadez leur appartient. Or, nous, on a trouvé ça depuis nos ancêtres. C'est eux qui ont sélectionné les différentes croix. C'est eux qui ont jugé utile de classer les croix selon les régions et donner un nom à chaque croix à la ville de son origine. Notre appel à l'endroit des autorités, c'est de veiller à la protection de ces croix. Et seul l'État peut le faire. Nous, on ne peut que le soutenir.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Dans un instant, place aux journaux en langue nationale. Et à 18h15, Mokhtar Hamadou vous présentera le forum de la presse.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce Airtel gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store.